La revue de presse sur Radio Maria France, c'est parti, on retrouve tout de suite Claire.
Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria France, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour cette revue de presse du 29 juin 2020. Voici les titres de l'actualité. Nous commencerons par un point psychologie spirituelle, à savoir gagner en liberté intérieure. Nous aspirons tous à la liberté, mais comment trouver le chemin de la vraie liberté? Je vous donnerai les conseils du père Lionel Dalle, paru dans L'Invisible de ce mois-ci. Comment peut-on dire aux jeunes « oser » quand on est atteint d'une myopathie? Et ben c'est ce qu'a fait Jeanne Pella en entrant dans une communauté religieuse. Je vous en dirai plus dans quelques instants. Culture chrétienne, couple, réveillez votre amour, le dernier livre du cardinal Robert Sarra, paru au Life Editions. Et un autre livre également, Traverser le cancer avec Zélie Martin et la Vierge du Sourire, paru aux mêmes éditions. Je vous en dirai plus à la fin de cette revue de presse. Nous commençons sur la question de la liberté. Donc, comment grandir en liberté intérieure? Voici ce que vous conseille le père Lionel Dalle. Qui n'a jamais rêvé de gagner au loto pour s'affranchir de toute contrainte et pouvoir faire ce qu'il veut? Nous aspirons tous à la liberté, mais comment trouver le chemin de la vraie liberté? On perçoit souvent la liberté comme l'absence de contraintes extérieures. Même si cette vision comporte une part de vérité, elle entretient l'illusion que l'essentiel des limites à ma liberté se trouve à l'extérieur de moi-même, dans tout ce qui m'est imposé. Donc pour être libre, je dois consacrer mon énergie à minimiser ou même éliminer tout ce qui me contraint. D'où la course au progrès, où l'on demande à la science d'inventer sans cesse de nouveaux moyens pour me libérer. Par exemple, me déplacer plus vite pour gagner du temps, changer de sexe pour choisir d'être un homme ou une femme, ne plus vieillir, et ainsi je serai libre. Cette course en avant ne fait que repousser les limites et génère finalement une profonde frustration. Là n'est pas la clé de la véritable liberté. Saint Paul vient renverser la problématique. « C'est en vous-même que vous êtes à l'étroit », nous dit-il dans la lettre aux Corinthiens. « Le problème de ma liberté est beaucoup plus intérieur qu'extérieur. » Au fond, ce ne sont pas les lois, les règles, les obligations qui limitent le plus ma liberté, mais plutôt mes dépendances, mes mauvaises habitudes, ma paresse, mes peurs, le découragement, la faiblesse de ma volonté, mon égoïsme, mon égocentrisme, et bien sûr le mal que je commets, qui est le plus grand des esclavages. Voilà ce qui ruine ma liberté. C'est en moi-même que je suis enfermée, et j'ai besoin d'une libération intérieure. Cette libération, le Christ l'a accomplie en mourant sur la croix. C'est pour que vous soyez libres que le Christ vous a libéré. Jésus m'a libéré de moi-même et me fait le cadeau d'une liberté nouvelle, celle des fils de Dieu. Ce don qui m'est donné gratuitement est la clé de la vraie liberté. C'est une véritable révolution. La liberté ne réside pas tant dans l'absence de contraintes que dans ce dynamisme qui me pousse à faire advenir le meilleur de moi-même, en fonction de ce que je suis et de ma situation présente. Cette prise de conscience m'aide à mener le vrai combat de la liberté, affronter courageusement mes mauvaises tendances par l'humble travail des vertus, la persévérance quotidienne dans les actes de maîtrise de soi, de courage, de discipline avec l'aide de Dieu. Ainsi, je cesse d'accuser les autres, la société, mon patron, mon conjoint, et je comprends que je suis le premier responsable du déploiement de ma liberté. Cette nouvelle vision de la liberté me permet également de redécouvrir la joie de l'engagement. Ma liberté n'est pas proportionnelle à l'éventail des possibilités posées devant moi. Certes, le moment du choix est important, mais la réalisation de ce choix l'est plus encore. Le choix ouvre la voie d'une réalisation, d'un accomplissement en lequel il trouve son sens. En choisissant un conjoint, un métier, une maison, je ne détruis pas ma liberté, je l'accomplis. Le pouvoir de choisir n'est que le moment initial de ma liberté, pas sa plénitude. Enfin, cette liberté intérieure dans le Christ demeure même quand toutes les circonstances extérieures semblent la contredire. C'est là son aspect le plus paradoxal et le plus puissant. Quand je me trouve dans une situation d'absence de liberté extérieure, une situation pénible, imposée, difficile, il me reste encore un chemin. Consentir à ce qui m'est imposé au lieu de me révolter ou de me résigner. Cette attitude change profondément ma disposition intérieure. Au contraire de la révolte et de la résignation, elle est une ouverture. Elle pressent la possibilité d'une nouveauté, d'un inattendu qui pourrait être positif. Lorsque je consens, même si les apparences sont contraires, j'entre dans une certaine espérance. En prononçant ce « oui » intérieur à une situation fermée, je rejoins cette vision de foi selon laquelle Dieu est capable de tout transformer à mon profit. Cela permet une fécondité et une nouveauté qui ne peut advenir dans la révolte et la résignation. Quelque chose de beau, d'imprévu peut se produire. Je peux apprendre et grandir au travers de cet événement difficile. Le consentement à ce qui m'est imposé, loin de diminuer ma liberté, la déploie. Il me permet d'être libre même au cœur des situations les plus pénibles. Si j'acquiers cette liberté intérieure, je deviens capable de tout supporter, tout en continuant à me sentir vraiment libre. Donc voici les 5 clés données par le Père Lionel Dalle pour clore cet article. La première, je prends conscience de ma mauvaise compréhension de la liberté. La deuxième, je déploie ma liberté. La troisième, je consens. La quatrième, j'accueille la joie. Et la cinquième et la plus importante de toutes, j'exerce la foi. Si cet article vous a plu, vous pourrez le retrouver dans l'invisible de ce mois-ci. Comment peut-on dire aux jeunes « osez, lancez-vous dans la vie » alors qu'on est atteint d'une myopathie ? Jeanne Pelat en est atteinte évidemment et a aussi écrit un livre à ce propos qui s'appelle « Résiste » paru aux éditions Bayard. Elle a évoqué dans le magazine « Ombre et lumière » la question de la vocation pour les personnes avec un handicap. Vous avez répondu, lui a-t-on demandé, au questionnaire en vue du synode des jeunes. Que voulez-vous dire à l'Église en tant que jeune en situation de handicap ? Voici ce que Jeanne a répondu. Ce que j'attends de l'Église, c'est qu'elle rende accessible au maximum ses lieux de culte d'un point de vue matériel. J'ai la chance d'avoir une paroisse accessible, mais beaucoup d'événements dans mon diocèse ont lieu dans des églises qui ne le sont pas. Or, cela ne nécessite pas forcément des moyens très coûteux ni compliqués. Je pense à une chapelle dans l'île qui n'est pas accessible. Les paroissiens ont installé une sonnette à notre hauteur. Il suffit d'appuyer sur la sonnette pour que quelqu'un arrive avec une rampe. Il ne s'agit pas forcément d'effectuer de grands travaux, mais de mettre de la bonne volonté avec les moyens du bord pour que cela soit possible. En tant que malade, j'attends aussi de l'Église une présence dans les hôpitaux et dans les instituts d'éducation motrice. J'ai connu tellement de jeunes qui ont perdu la foi avec la survenue du handicap. C'est difficile ensuite d'évangéliser sur ces terrains. Cela doit venir d'une rencontre intérieure, mais si l'Église s'efface totalement, ça n'est pas non plus la solution. Cette présence pourrait être visible par un flyer, un prêtre qui vient proposer le sacrement des malades. À Lourdes, j'ai vu des personnes désespérant de Dieu accepter de recevoir le sacrement des malades. Ce n'est pas parce qu'il y a une rébellion qu'il n'y a pas, au fond, un désir de se rapprocher de Dieu. En octobre, vous allez entrer dans une communauté religieuse contemplative. Comment avez-vous reçu et discerné cette vocation ? La réponse de Jeanne. Il y a des appels qui se font très lentement. Moi, ça a plutôt été un coup de tonnerre. J'ai reçu l'appel en deux étapes. D'abord, une conversion très profonde au moment de ma confirmation, puis à 17 ans à Lourdes, un appel très précis, foudroyant pour la vie religieuse. À l'époque, j'avais un petit ami. Sur le moment, j'ai eu envie de tout quitter tout de suite. Mais mon directeur spirituel m'a invité à prendre le temps de la réflexion. Elle a duré 5 ans, pendant lesquels j'ai gardé ce secret. J'ai ainsi fait des stages dans des communautés pour confronter mon désir à la réalité. Assez vite, je me suis sentie attirée par la vie contemplative, ce qui peut paraître surprenant car je fais attention à mon apparence. J'aime énormément sortir, voir des amis. Ce n'est donc pas par dépit que je choisis la vie religieuse. Mais cet appel est plus fort. Malgré tout ce que je vis d'épanouissant, rien ne me rend plus heureuse que cette vie-là. Je ne voulais pas aller dans une communauté où j'aurais senti que j'étais un poids pour les sœurs. Un jour, j'ai été accueillie dans une communauté où les sœurs ne sont pas très nombreuses, mais jeunes. Et j'ai eu un déclic, c'est là que j'irai. Que diriez-vous à d'autres jeunes en situation de handicap qui ont parfois du mal à trouver leur place ou leur vocation ? J'ai toujours eu en moi une part d'audace qui ne me donne pas une assurance totale, mais qui me dit « tu peux, tu n'as rien à perdre. Essaie et tu verras. Et si tu n'es pas accueilli, là tu seras accueilli ailleurs. Ensuite, j'ai une part de réalisme. Quand ça n'est pas possible, je sais le reconnaître. J'ai tout de suite abandonné l'idée de la vie apostolique parce que les communautés sont trop âgées pour m'accueillir. Mais ce n'est pas grave. C'est que ma place est ailleurs. À tous les jeunes, j'aimerais dire « osez ». L'apprentissage de mes limites m'a permis de m'épanouir et de me lancer dans des projets à ma hauteur. Accéder à ces limites n'est pas négatif. Nous en avons tous, comme nous avons tous des charismes particuliers. Acceptons nos limites. C'est comme ça que Dieu nous guide vers ce qui peut nous rendre heureux. Toute vocation est une réponse à son être avec ses limites et ses charismes. Si un projet nous semble difficile mais qu'il existe une chance pour qu'il soit réalisable, il faut foncer. Je ne me demande pas si je vais réussir, mais si j'ai envie de le vivre. S'engager, c'est juste prendre le risque d'être heureux et de rendre les autres heureux. C'était le témoignage de Jeanne Pella, qui est aujourd'hui donc dans une communauté religieuse et qui est atteinte de myopathie. Vous pourrez retrouver son témoignage dans le magazine de l'OCH « Ombre et lumière ». Culture chrétienne. Le cardinal Robert Sarra vient de publier au Life Editions « Couple, réveillez votre amour ». Quelques points de présentation sur ce livre. Avec une grande profondeur, le cardinal Robert Sarra veut aider les époux à redécouvrir les sources de l'amour et les moyens de le ressusciter. Oui, il existe un chemin de renouveau pour chacun et aucune situation n'est sans issue. Ce livre est pour tous les couples, ceux qui peinent, ceux qui veulent redécouvrir que leur amour est une histoire sacrée. En nous invitant à mettre le Christ au centre de notre vie, le cardinal vient rappeler que nous sommes tous appelés à la joie. Il n'y a pas d'exception. Ces mots rejoignent le cœur et renforcent la confiance. Donc le livre du cardinal Robert Sarra, « Couple, réveillez votre amour » vient de paraître au Life Editions. Vous pouvez déjà le commander si vous êtes intéressé. Paru aux mêmes éditions, « Traverser le cancer avec Zélie Martin et la Vierge du sourire ». Dans la joie comme dans l'épreuve, sainte Zélie Martin s'est tournée vers Marie, la Vierge du sourire. Elle savait que la Mère de Dieu accompagne chaque événement familial, qu'elle guérit, console et affermit ceux qui l'invoquent lorsque survient une affection grave comme le cancer. Quand Zélie découvre la maladie qui la touche, après le choc de la nouvelle, elle choisit d'entrer progressivement sur la voie de l'abandon. Épouse et mère, elle vit cette épreuve comme une extraordinaire occasion de renouveau intérieur. Chaque instant la rapproche davantage de Jésus. Tout au long de sa maladie, elle se confie à l'intercession de Notre-Dame. N'ira-t-elle pas à Lourdes lui confier sa santé? De retour, comprenant que la fécondité de sa vie est d'entrer dans la voie d'une oblation encore plus totale au Père, Zélie fait l'expérience d'un authentique bonheur et de la véritable joie. Ses jours désormais vont illuminer ceux qui l'entourent et la lumière du ciel prendra le pas sur la nuit. Cette neuvaine s'adresse spécialement à ceux qui sont touchés par le cancer. Ils peuvent trouver en Sainte Zélie une avocate, une amie, une sœur, qui va les aider à vivre ce temps d'épreuve comme une occasion unique de vivre toujours plus unis à Jésus et Marie. En priant pour leur guérison physique, ils n'oublieront pas d'invoquer Notre-Dame, qui guérit des blessures du corps mais aussi de l'âme. Ainsi, ils pourront témoigner autour d'eux que celui qui prie et s'abandonne à Dieu guérit toujours de ce qui est périssable en l'homme. La neuvaine consiste en une méditation originale pour chaque jour dans l'esprit de Zélie Martin, suivie d'une prière originale de consécration à Marie. À noter que chaque méditation porte sur un aspect particulier qui rejoint ceux qui sont affectés par le cancer. La confiance en Dieu, l'espérance de la guérison, l'importance de l'instant présent, la souffrance, la paix intérieure, l'amitié. En complément, une prière litanique originale adressée à Marie, la Sainte Vierge est invoquée pour soulager et consoler les personnes. Et pour conclure, le texte intégral du poème de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, mon chant d'aujourd'hui, est proposé à la méditation. Donc si vous êtes intéressé par ce livret, il est déjà disponible sur le site de Life Editions. Donc c'est « Traverser le cancer » avec Zélie Martin et la Vierge du sourire. Je vous retrouve dans quelques instants après Jean-Benoît Harel. À tout de suite.
Bonjour à tous les auditeurs de Radio Maria. On se retrouve cette semaine pour évoquer les chrétiens en Asie. Aujourd'hui, nous allons parler du confinement dans un bidonville, des sectes liturgiques en Corée, d'un bras de fer à Hong Kong qui se termine et enfin du sort difficile des réfugiés lors de cette période de coronavirus. Alors pour commencer, certains pays d'Asie comme l'Inde sortent progressivement du confinement, une expérience qui a été difficile pour les quartiers les plus pauvres. Toutefois, si l'Inde sort progressivement du confinement, le pays lutte toujours contre la pandémie. Le virus a entraîné près de 60 000 malades à Mumbai, la capitale de l'état du Maharashtra, et 2100 dans la bidonville de Dharavi, le deuxième plus grand d'Asie. Évidemment, un confinement dans un bidonville est très difficile à vivre, voire impossible à appliquer. C'est le cas de ce bidonville de Dharavi, qui compte entre 1 million et 1,2 million d'habitants pour 223 hectares, soit l'une des zones urbaines les plus denses au monde. C'est pourquoi le confinement a été mis en place par ruelles. Chaque allée a été séparée et isolée des autres, les résidents partageant les toilettes. Les autorités de la ville ont également interdit la vente de fruits et légumes dans la rue. Le diocèse de Kailian, via son organisation caritative Karunia Trust, a distribué des colis alimentaires pour soutenir les plus défavorisés qui ne pouvaient plus sortir pour se trouver de la nourriture. La bonne nouvelle est que, selon les autorités locales, le bidonville a remporté la lutte contre le virus malgré toutes ses difficultés. Ensuite, en Corée du Sud, les cérémonies et fêtes liturgiques se poursuivent toujours dans le respect des règles sanitaires. Par exemple, vendredi dernier, le 19 juin, l'archidiocèse de Séoul a célébré la journée de prière pour la sanctification des prêtres dans la cathédrale de Myeongdong, dans la capitale sud-coréenne. En raison des restrictions sanitaires toujours en vigueur, seuls les prêtres ont pu participer à la célébration. Cette journée de prière a été instituée en 1995 par Saint Jean-Paul II, le jour de la solennité du Sacré-Cœur. Le cardinal Andrew Yeom Sung-jun, archevêque de Séoul, qui a fêté ses 50 ans de sacerdoce à cette occasion, a encouragé les prêtres sud-coréens à être témoins de l'amour de Dieu et de la joie de l'Évangile dans l'Église et dans le monde. Je cite « Être appelé au sacerdoce, c'est être appelé à servir pour le bien et le salut du peuple de Dieu ». Ensuite, le bras de fer à Hong Kong entre les autorités et les manifestants pro-démocratie est en passe d'être remporté par le gouvernement central. Alors, pour vous rappeler, depuis le 15 mars 2019, des Hongkongais se battaient et se battent pour conserver leurs droits et refusent de projet de loi sur l'extradition. À l'origine, ce projet pouvait juste permettre au gouvernement chinois d'extrader un ressortissant hongkongais pour le faire juger dans une autre province chinoise où les droits des individus ne sont pas respectés. Pourtant, nous nous approchons de l'épilogue de cette lutte et cela ne va pas dans le sens de la liberté pour Hong Kong. En effet, c'est à partir de lundi que doit se rassembler à nouveau le comité permanent de l'Assemblée nationale populaire pour approuver la loi sur la sécurité nationale. Cette loi permet l'extradition, mais plus globalement, elle met fin à la liberté relative dont jouissait Hong Kong par rapport aux autres provinces de la Chine. Dans ce contexte, 86 organisations ont co-signé une lettre ouverte adressée au gouvernement chinois afin d'exprimer leurs inquiétudes concernant cette nouvelle loi. La nouvelle législation, qui pourrait être promulguée officiellement le 1er juillet, condamne les actes de sédition, de séparatisme, de terrorisme et les influences étrangères. Elle pourrait aussi favoriser des poursuites judiciaires contre les catholiques, y compris les autorités religieuses locales. De nombreuses organisations locales, dont le diocèse de Hong Kong par la voix de son évêque Monseigneur Joseph A, ont fait part de leur opposition à une loi qui risque de, je cite, « menacer les droits fondamentaux et les libertés des Hongkongais ». Enfin, pour terminer, partons en Birmanie avec le cardinal Charles Mangbo, l'archevêque de Rangoon, qui, à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés, a appelé les dirigeants asiatiques à donner la priorité à la protection des personnes déplacées. Dans son communiqué, le cardinal de 72 ans dénonce le racisme, le nativisme et les discours de haine rencontrés de plus en plus fréquemment par les migrants sans papier, les réfugiés et les demandeurs d'asile à travers l'Asie, notamment en Birmanie où l'on compte plusieurs milliers de personnes déplacées internes. Selon un nouveau rapport annuel de l'UNHCR, le nombre de migrants a atteint presque 80 millions de personnes à travers le monde en 2019. Le cardinal explique, je cite, « Afin d'accélérer la fin de la crise sanitaire, d'apaiser la faim et la pauvreté provoquée par la pandémie et de prévenir les migrations forcées, il faut résoudre les causes réelles des conflits, cesser les offensives militaires et autoriser le retour des réfugiés dans leurs villages. » Le cardinal s'en prend aussi au gouvernement birman qui a coupé les accès à Internet dans les zones de conflit pendant la crise du coronavirus, ce qui a empêché une partie de la population de se tenir au courant des règles sanitaires à tenir. Le cardinal termine en affirmant, je le cite, « La crise peut être dépassée à condition de n'oublier personne ». Voilà, c'est la fin de cette chronique sur les chrétiens en Asie, c'est la fin... J'ai été très heureux de pouvoir vous partager les informations sur les chrétiens d'Asie.
Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria France, il est temps de conclure cette revue de presse du 29 juin. Je vous redonne les titres de l'actualité. Nous avons commencé avec le père Lionel Dalle sur « Gagner en liberté intérieure ». Gagner cette liberté, c'est trouver la joie et la paix. Donc, paru dans l'Invisible de ce mois-ci. Jeanne Pelat interpelle les jeunes à oser s'engager. Elle-même atteinte d'une myopathie, elle est aujourd'hui dans une communauté religieuse. Elle redit à tous les jeunes aujourd'hui, s'engager, c'est juste prendre le risque d'être heureux et de rendre les autres heureux. Culture chrétienne, deux livres parus au Life Editions. D'abord, Couple, réveillez votre amour du cardinal Robert Sarah. Pour le cardinal, aucune situation n'est sans issue et il existe un chemin de renouveau pour chaque couple. Deuxième livre, Traverser le cancer avec Zélie Martin et la Vierge du Sourire. Ce livret donc comporte trois parties, une neuvaine avec des méditations de Sainte Zélie Martin, une prière litanique adressée à Marie et un texte intégral du poème de Sainte Thérèse, mon chant d'aujourd'hui. C'était la dernière revue de presse de cette année. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été et je vous retrouverai avec joie en septembre.